La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
Lavouivre Badlel, après avoir pris son envol avant la pause internationale, le HC Ajoie a manqué son retour sur glace. Deux matchs seulement durant la quinzaine écoulée, deux matchs pour deux casquettes face à Fribourg et Ambry. Le HCA qui n'a pas brillé et pourtant on va bien distribuer quelques étoiles dans le débrief. La pause internationale, lui, n'en a pas vraiment profité, en tout cas pas pour se reposer, mais plutôt pour revêtir un autre chandail, celui de son équipe nationale. Thomas Thierry passe sur le grill de la bande du jeudi, place ensuite au face-à-face avec un thème étranger. Pour ce sixième épisode, faut-il poursuivre le tournus des mercenaires? Et puis on vous donnera deux avis avant de se plonger sur le programme qui attend la troupe jurassienne. Installez-vous bien, c'est parti!
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
Sixième épisode déjà pour votre podcast consacré au HC Ajoie. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à vous, mes coéquipiers de bloc, Julien Beugli, Rafik Ouyoumdjan. En forme, messieurs?
En forme, tout va bien.
Oui, bonjour, salut Mathieu. Un petit coup de froid depuis le week-end dernier, un petit rhume, un peu comme le HCA. J'espère que pour tout le monde, ça ira vite, beaucoup mieux.
On va te ménager ce soir, t'inquiète pas Julien. Et puis on se met aux couleurs de la France pour ce numéro. C'est Thomas Thierry, défenseur tricolore au passeport suisse, qui est notre invité. Salut Thomas, bienvenue à toi.
Bonsoir.
Le débrief.
On évoquait un HC Ajoie en pleine bourre lors de notre précédente édition. Eh bien, tout a changé depuis. Une pause internationale et un week-end de compétition plus tard. Nous voici avec une formation qui se repose des questions. Deux lourdes défaites pour retrouver le chemin du championnat. C'était vendredi à Fribourg 8-4. Samedi face à Ambry 6-2. Malgré cela, Julien, tu as l'honneur de décerner les étoiles de la quinzaine écoulée. Je ne sais pas vraiment si c'est un honneur en fait.
Oui, je le prends comme un honneur, Mathieu.
Alors ça va, si tu le prends.
Mais
comme ça.
Pour être tout à fait transparent avec vous, messieurs, je dois quand même vous avouer que si j'étais bien à Porrentruy samedi, je n'ai pas assisté au match de vendredi à Fribourg. Je crois qu'il faut que je dise les choses clairement. Il m'arrive d'être engagé sur d'autres clubs romands, un Sport Center. C'était le cas ce soir-là avec le match Kloten-Bienne. Me voyant mal attribuer des étoiles sur un seul match, j'ai par conséquent enchaîné avec la défaite à Fribourg en replay après le duel à Kloten.
Courage.
Ouais, vous comprendrez donc que j'ai bouffé du hockey jusqu'à satiété vendredi dernier. Deux matchs pour des étoiles. Voici à qui elles sont décernées. Trois étoiles à Eric Gélina, deux étoiles à Jonathan Hazen et une étoile à Kevin Fay. Deux défenseurs dans l'attribution de mes étoiles, alors qu'Ajoie a concédé 14 buts en deux matchs. Ça en étonnera peut-être certains. Je défendrai mes choix, mais avant cela, est-ce qu'il y a une réaction?
Ben, je dois te dire que c'est pas l'exercice le plus évident depuis le début de ce podcast. J'ai honnêtement un peu galéré pour essayer de faire un choix, mais je suis aux deux tiers d'accord avec toi.
D'accord. Et Rafi?
Ouais, vous l'avez dit, c'était pas évident d'aller sortir des mentions au moment où l'équipe a un coup de mou. Je crois que les trois étoiles, ça s'est posé à mon avis, donc on écoute volontiers ton analyse.
Très bien, donc trois étoiles à Eric, sachant qu'il a été désigné surnuméraire samedi face à Ambry. Ce choix peut surprendre, je l'accorde. Cette attribution, elle est quelque part, c'est quelque part une petite forme de contestation, parce que pour moi, Gélina devait jouer samedi. Depuis fin octobre, il s'est imposé comme la tour de contrôle de l'arrière-garde, ce qu'il montre, ce que au public et à moi en tout cas me plaît beaucoup. Et qu'en plus, il est d'un apport considérable à l'offensive. Ses 5 buts lors des 5 derniers matchs, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il en plante 2 à Fribourg sur les 3 frappes adressées, ce à quoi il faut ajouter une mention d'assistance. Il a le meilleur plus-minus du match côté Ajoulo, avec un plus 2 et près de 22 minutes de temps de glace. Il est au passage le seul à dépasser les 20 minutes. Propre, efficace, 3 étoiles pour Eric. Et tant pis si je ne lui attribue que sur un match, j'assume complètement.
Non mais je te rejoins à 100%, j'aurais eu exactement le même choix. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans ce podcast aussi sur les choix du coach et puis l'alignement du samedi qui a surpris tout le monde, mais pour pas trahir de secret, on en discutait avec Rafi à l'issue du match à Fribourg, et pour nous c'était une évidence que ça repartait avec 5 attaquants, un défenseur étranger le lendemain, et que Gélina était à nouveau aligné. Il sort son match clairement à Fribourg, tu l'as dit, il sort avec un plus minus de plus 2 alors qu'Ajoa prend 8 buts.
Prend 8, ouais.
Voilà, et il a donné de la stabilité au powerplay aussi depuis qu'il est mis sur la droite, hein, dans la zone du rond d'engagement. Il apporte quelque chose, et puis on sent qu'il y a un déclic qui s'est produit chez lui, qu'il arrive à jouer la continuité sur un rythme et puis une cadence assez impressionnante.
Ouais. Rafi, toi, tu l'avais peut-être
ouais,
mis
aussi. Ce que j'aime chez lui, c'est son attitude, je dirais presque retrouvée. Ouais, c'est un nouvel homme par rapport au début de saison. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est un leader sur la glace. Et puis, on parlait de l'alignement de samedi par rapport à vendredi. Il n'y a pas que l'aspect défensif aussi chez les défenseurs. Et puis, un défenseur, ça amène aussi le côté offensif. Et puis, Gélina était tout à fait dans ce mood-là. Donc, pour moi, c'est un leader, il a bossé à 50% ce week-end, mais il méritait bien ses 3 étoiles.
Thomas, ça te surprend mon choix ou
Non, pas du tout.
Pas du tout. Tu le sens transformé aussi, Eric, par rapport à son début de saison ?
Ah oui, il s'intègre vraiment bien dans la région, dans l'équipe, et dans le club. Et puis c'est vrai qu'il nous a fait vraiment du bien ce match de vendredi contre Fribourg, et il a été un des éléments qui nous a redonné, on va dire, de l'espoir, même si on n'a pas réussi à enflammer cette grande braise. Mais je suis très content d'avoir Eric, bien sûr, comme coéquipier, puis il fait du bien à l'équipe, et il accepte son rôle, et puis il prend ses responsabilités au la main.
Julien, tu restes sur un Québécois pour les 2 étoiles, hein, derrière.
Oui, à Jonathan Hazen. Un assist à Fribourg, il est aussi l'auteur du 1-3 samedi en jeu de puissance. Alors c'est pas une moisson exceptionnelle pour Johnny, mais il est tout de même là chaque soir. Et s'il n'a pas forcément été éclatant le week-end dernier, je tiens surtout avec ses 2 étoiles à relever en fait sa régularité. Le top scorer a inscrit un but lors de 10 des 21 matchs disputés et au moins un point lors de 13 rencontres. Depuis ce que l'on espère être le déclic, puis là je parle bien sûr de la victoire à Davos le 21 octobre, le top scorer il marque presque lors de chaque rencontre depuis son passage dans l'émission il y a un mois. J'espère sincèrement que Julien Vauclair lui ait soumis une prolongation de contrat, sans quoi franchement je ne serais pas étonné que l'un ou l'autre club là, de National League lui fasse les yeux doux.
Le prince de Val-Bélair, hein.
Le prince, exactement, ouais,
ouais. Ouais, si on était à l'école, je crois qu'on nous dirait qu'on a copié l'un sur l'autre, hein, parce que j'ai la même analyse que toi. Je me faisais un peu ce choix-là par défaut sur la longévité de Jonathan Hazen, sur la régularité surtout du numéro 4 top scorer. C'est vrai qu'il y en a d'autres sur une période plus courte, plus resserrée, qui font aussi leur point. On peut penser à Daniel Audette, à Frédéric Gauthier également. Mais je crois que dans le jeu aussi, c'est quand même le joueur qui apporte régulièrement quelque chose d'intéressant dans l'offensive d'Ajoa.
Et quand il marque, il nous marque des jolis buts, parce que le but qu'il inscrit face à Ambry samedi, c'est magnifique dans l'exécution, hein, la manière dont il se joue de Juvenen à un moment important de la partie. Il y a 0-3, c'est le but de la relance, et à ce moment-là, ça permet aussi au HC Ajoa de se relancer, donc il est là aussi à des moments importants. Et puis dans une nouvelle configuration avec deux nouveaux coéquipiers, hein, notamment ce soir Roman Enghi et Timashov, voilà, il s'est bien mis dans ce nouveau trio.
Pas trop de discussion effectivement sur Johnny.
Thomas, non ?
Non, c'est bien résumé. Il mérite son maillot à flamme. Ouais. C'est notre leader offensif. Il est présent à chaque match. Il fait les points. Il nous relance, comme tu l'as dit, contre Ambry Piotta. Un immense crédit aussi à lui, parce qu'il a subi une grosse blessure en fin de l'année dernière, et puis il a vraiment pris le temps cet été de revenir à fond, et puis il est présent cette année comme notre leader offensif, comme notre top scorer. Donc bien sûr que s'il continue à nous mettre un point voire deux par match, on accepte,
hein. On prend aussi.
Très bien, je termine peut-être avec ma dernière étoile, à Kevin Fay. J'ai hésité assez longuement d'ailleurs entre 3 hommes, Kevin, toi ici Thomas et Valentin Pilet. Alors ce qui a fait pencher la balance en faveur de Kevin, c'est une fois encore son investissement total et son sens du sacrifice. Il a bloqué 2 tirs vendredi à Fribourg, il en a bloqué 4 samedi face à Ambry. Et puis cette étoile, c'est aussi pour moi, pour marquer mon soutien envers le défenseur, pardon, suite à sa pénalité que je juge pas franchement méritée, voire même totalement imméritée, hein, qu'il s'est vu infliger en fin de premier tiers à Fribourg et qui a amené le 3-2 décisif des Dragons en début de deuxième tiers. Il ne méritait pas ça, mais cette étoile, à mes yeux, il la mérite.
Ouais, t'as raison, c'est un petit peu le héros malheureux du match de vendredi, parce que c'est cette séquence-là qui fait un petit peu tourner la partie et qui a désarçonné le HCA dès la reprise, oui, en effet, ouais.
Ouais, alors je suis d'accord avec héros malheureux, je suis moins d'accord sur le fait qu'il méritait pas de pénalité. Moi je crois plutôt que c'est le Fribourgeois qui méritait une
aussi,
pénalité.
Aussi, également.
Qui devait partir à deux
sur le
banc.
Il n'y a pas d'équité, je trouve, d'équilibre par rapport à la sanction. Quoi.
Ouais. Je comprends ton argumentaire, effectivement. J'aurais misé sur quelqu'un d'autre, toi, Rafi.
Alors
aussi.
Moi, je m'étais arrêté à 3 étoiles et 2 étoiles sur ce coup-là. J'étais pas allé. C'était pas mon jeu cette fois, donc voilà, je suis pas allé plus loin. Voilà.
Et puis toi, Mathieu, alors.
Ben, j'aurais donné une petite mention, très honnêtement, plus pour appuyer puis encourager à Patnaud, parce que je trouve qu'il n'a pas un rôle très évident pour ses premières minutes en National League. Tu rentres à Fribourg, t'es mené 5-2. Tu peux te dire que voilà, l'équipe elle est en train de passer à côté de sa deuxième partie de match, que tout à coup tu vas prendre une avalanche de buts. Et puis non, il sort quand même 2-3 arrêts plutôt intéressants. Alors il en prend encore 2, plus un dans la cage vide, sur 20 ou 30 minutes de glace. Mais voilà, pour un gars qui n'a pas joué depuis janvier et qui a fait 5 matchs en Swiss League, j'ai trouvé plutôt intéressant ses premières minutes en National League. Et puis c'était l'occasion de le soulever.
Ouais, et peut-être qu'on va le voir comme titulaire ces prochains un jour, peut-être qu'il aura son premier match de titulaire en National League avec quelques matchs qui vont s'enchaîner et la blessure de Tim Wolf, peut-être, on verra.
Ouais, c'est juste, surtout que Damiano, brillant, très brillant, hein, excellent depuis le début de saison, il a vécu lui aussi un dernier week-end un peu plus compliqué, j'ai envie de dire presque au pire moment, hein, lorsque le Tim Wolf est blessé, donc voilà, c'est une ouverture qui s'offre, comme tu le dis, à Patnaud.
Et comme quoi, ça peut aller très très vite, hein, dans le hockey sur glace. C'est vrai qu'on en discutait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Pas de minutes pour lui. Il fait banquette. Et puis là, tout à coup, il a 5 matchs en Swiss League. Il joue ses premières minutes en National League. Le destin d'un hockeyeur, ça peut aller assez vite, effectivement.
Sur le grill.
17, c'est le nombre de points que comptabilise le HC Ajoie après 21 matchs dans ce championnat de National League. Mais c'est aussi et surtout le numéro de maillot de notre invité du jour, Thomas Thierry. Tu es défenseur, tu as 26 ans. Et puis si on regarde un petit peu ton parcours, eh bien on se demande assez rapidement ce qui t'a poussé à chausser les patins. Oui, parce que tu es né en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, comme Henri II. Charles IX, Louis XIV, rien que ça.
Et Saint-Germain.
Saint-Germain.
Devenir roi, non, ça te bottait pas?
Non, c'est pas mon ambition. Non. Toute humilité, joueur de hockey, ça me va très bien.
Et puis Saint-Germain-en-Laye, c'est aussi là qu'est basé un certain PSG, le Paris Saint-Germain. Alors pourquoi le hockey sur glace finalement, Thomas?
Eh bien, mes parents, tout simplement. Plus jeune, mon papa a fait différents sports. Ma maman a pratiqué la danse sur glace. Donc moi aussi, j'ai été mis dans le bain très très jeune avec le karaté, le tennis et puis le hockey sur glace. Et puis au final, voilà, c'est le hockey sur glace qui est resté. Franchement, on m'a mis sur la glace, sur les patins. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Et au final, j'ai vu ces jeunes patiner avec des casques, des épaulières, des crosses. Et puis, en étant jeune, je voulais me déguiser comme les chevaliers, quoi. Et j'ai dit, bah voilà, je veux jouer au hockey sur glace. Et c'est ça qui m'a poussé. Et puis, j'ai suivi mon chemin petit à petit. Il y a eu des hauts, des bas et beaucoup de voyages. Et puis voilà, maintenant, je suis dans les studios RFJ à Delémont.
Et ça tombe bien, tu parles de chevaliers. Tu as commencé le hockey sur glace avec les Chevaliers du Lac à Annecy.
Exactement.
Ça ne s'invente pas, hein, quand même.
Non.
Tu rejoins rapidement ensuite la structure de Genève Servette. Tu es plutôt un surdoué. À 12 ans, tu évolues déjà dans le championnat U15. Tu fais toutes tes classes juniors avec les Aigles. Hein, c'est ce qui te permet aujourd'hui de patiner avec une licence suisse. Cap ensuite sur Feu Zug Academy en Swiss League, un passage là aussi assez éclair pour vite trouver ta place dans la première équipe de la Bossart Arena. Tu gagnes la Coupe de Suisse avec Zug en 2019, puis l'année d'après tu mets le cap sur Berne, 2 ans dans la capitale, Alors on va le dire clairement, c'était pas les deux meilleures années de l'Ours, mais tu remportes une deuxième Coupe de Suisse avec le CPB. Et puis arrive ta signature au HC Ajoie, c'est au printemps de l'année dernière. Tu as entamé ton deuxième hiver désormais dans le Jura. Pourquoi Ajoie ?
Pourquoi Ajoie ? Bonne question. Eh bien, tout simplement, Ajoie m'a fait une offre. Quand ça allait pas très bien avec les ours de Berne. Et j'ai beaucoup aimé le challenge. Ça a été de rejoindre une équipe qui monte dans la ligue, donc qui est nouvelle dans cette structure, qualifiée et qui est toujours qualifiée, malheureusement, de petit poussé, et de devoir affronter les grosses écuries du championnat comme Zurich, comme Zug, comme Berne et tout. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce côté. Je suis pas défenseur pour rien, c'est une mentalité, c'est un caractère. Vouloir défendre le plus faible contre le plus fort, voilà, c'est dans ma nature. J'ai eu des problèmes à l'école à cause de ça, donc voilà, c'est mon chemin de vie. J'adore défendre, je pourrais passer 60 minutes à défendre, j'adore ça. Donc pouvoir utiliser, on va dire, tout ce que j'ai pu apprendre, l'expérience que j'ai notamment avec l'équipe nationale et puis les autres clubs, pouvoir le mettre au service de Ajoie pour, on va dire, une noble cause, qui est de s'installer et puis se faire respecter en National League. Voilà, j'ai trouvé le challenge et le projet très séduisant.
Et on pourrait croire que tu as eu l'envie aussi de te rapprocher de la France en signant au HC Ajoie, mais pas vraiment si je fais erreur. Ajoie, oui, mais pas la volonté d'aller habiter en Ajoie, par contre.
Vous voulez que j'ai des problèmes, hein.
Non, ça reste entre nous.
Ça reste entre nous, bien sûr, et entre tous les... Voilà, merci. Non, là, c'est une très belle région, le Jura, hein, vous savez. Hein, donc, mais j'ai déjà dû faire un peu face à cette bonne guéguerre entre la région Ajoie et puis la vallée. Malheureusement, là, lorsque j'ai posé mes sacs ici, bon, je ne vais pas dire aller à Courtetel, voilà, à telle rue, voilà, je ne savais pas encore que c'était entre guillemets voilà, tendu, mais je trouve ça de bonne guerre. Quoi, et puis... Voilà, pour les ajoulots qui nous écoutent, la vallée, c'est aussi très joli.
Il n'y a pas que du brouillard.
Voilà, exactement.
Et puis Thomas, au moment de ta signature au HC Ajoie, tu disais dans une interview au quotidien jurassien, « Ajoie, je suis persuadé que c'est une équipe de guerriers. » Un an et demi plus tard, est-ce que c'est effectivement le cas ?
Eh bien, il faut, bien sûr, qu'on soit des guerriers. Et cette équipe fait preuve d'énormément de résilience. Parce que voilà, on a dû faire face l'année passée à la série de barrages, ensuite à la série contre voilà Playout et la série contre la Chaux-de-Fonds. Ça n'a jamais été évident. On a pris des coups durs. Ça fait trois saisons de suite aussi. Quoi. Le Ajoie malheureusement se classe en bas de tableau. Donc ça veut dire que assez régulièrement, on prend des coups sur la figure. Mais pourtant, le club est présent, les joueurs, je le souhaite, sont présents et ont cette volonté de voilà, comme on le répète souvent, de mouiller le maillot. Mais surtout, les fans voilà, sont présents et tous les soirs, on a une ambiance de folie qui, lorsque je discute avec beaucoup de joueurs, nous pousse et puis nous galvanise. Donc, cette équipe fait preuve de résilience. On encaisse les coups. Est-ce qu'on en donne tout autant ? Pas encore. Et pas encore parce que voilà, on travaille justement pour que ça le devienne. Et puis, vous l'avez mentionné un peu plus avant là, dans l'interview, Kevin Fay, notre infatigable guerrier, on est bien sûr un exemple. Et puis, j'avais aussi entendu Damiano lors d'une interview qui disait qu'il donnait beaucoup de crédit aux joueurs qui bloquaient les shoots. Voilà, bloquer les shoots, on aime ça. On a eu plusieurs pieds cassés, visage abîmé aussi par rapport à ça. Donc non, on aime bien bloquer les shoots et puis c'est un critère bien sûr de guerrier.
Thomas, ces derniers jours, on a donné la possibilité aux supporters du club de te poser directement des questions via nos réseaux sociaux. Donc on va en faire un petit tour de ce côté-là. Et c'est Grégoire Le Yarrick qui nous pose une première question. Alors Thomas, quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur de hockey ? Et il rajoute « Bon courage pour la suite de la saison ».
Tu connais apparemment.
Bien sûr, je connais.
D'accord. Le sourire.
Bien sûr, c'est mon ami d'enfance et très bon ami toujours, qui vit à Annecy où on a grandi ensemble et puis on a fait nos études aussi ensemble. Donc ouais, voilà. Très bon ami.
Le petit clin d'œil.
Alors, exactement.
Alors, merci à toi, Grégoire.
Alors meilleur souvenir. Bah oh, ben, j'en ai plein. Hein. Bien sûr, j'en ai plein. Mais je dirais. Mes premiers championnats du monde avec l'équipe de France senior. C'était pas prévu parce que de base, j'étais à la limite de faire l'équipe, mais encore une fois trop jeune. Et malheureusement, et heureusement pour moi, il y a eu une blessure. Donc j'ai pu rejoindre le groupe une semaine avant de partir.
T'avais 20 ans, c'est
juste. J'avais 20 ans, voilà. Donc 20 ans... J'étais encore je le suis toujours, mais encore vraiment un gosse, quoi. Simplement un rookie, quoi. Et je me suis retrouvé un peu dans ce monde vraiment international, professionnel, international, d'adulte. Je me retrouvais dans l'ascenseur avec des stars des NHL venus du Canada, de la Russie. J'étais, waouh, c'est extraordinaire. Et bizarrement, face à toute cette pression, parce que notre objectif en équipe de France, c'est le maintien, bien sûr. Et bah, malgré toute cette pression, voilà, je me suis jamais autant amusé. J'ai joué libéré, ça a été extraordinaire, très belle expérience. J'ai pas envie de dire que j'étais un touriste parce que voilà, il fallait quand même rester sérieux, mais j'ai vraiment profité pleinement de l'expérience sur glace et hors glace.
On rebondit sur ce que tu dis avec une autre question de Joris de Delémont qui demande quel est le coéquipier qui t'a le plus impressionné
cette année. Alors, dirais...
Non, pas forcément durant ta carrière. Pas forcément.
Oh là là, très dur encore une fois comme question, parce que j'ai fait plusieurs clubs. Donc, j'en ai vu du beau monde. Qui m'a le plus impressionné On va parler de Ajoie cette année, parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. Yannick Fischer, qui est passé ici, donc vous avez dû un peu avoir votre point de vue sur ce sacré
chouchou
personnage.
De Julien aussi. Hein.
Exactement.
J'ai pas mis dans mes étoiles. Pourtant, il a bloqué plus de tirs que Kevin Fell le week-end dernier. J'ai regardé.
C'est ça, il a beaucoup de bleu. Ouais. Ouais. Et bah, Yannick Fischer, c'est mon partenaire en défense et c'est un grand malade. je le cache pas. Malgré son âge, bon, non plus, on va pas exagérer. Il lâche rien, il abandonne jamais. Il est toujours à fond, que ce soit hors glace, sur la glace. Le match a pas commencé. Quoi, il reste 10 minutes avant l'échauffement. Il est déjà, mais équipé, prêt à bondir sur la glace à tel point qu'à chaque fois, je me demande si l'heure du match a été avancée. Et en tant que partenaire des défenseurs, il me lâche pas non plus, il me pousse, il me motive. Si j'ai ne serait-ce qu'une baisse de régime, il me met un beau coup de pied aux fesses pour que ça reparte. Et puis, je lui rends hommage pour ça. Et puis je suis très, très heureux d'être son dit partenaire. Et bien sûr, il bloque énormément de shots, donc c'est impressionnant, bien sûr.
En parlant des tirs bloqués... Quand on est défenseur, c'est quelque part un classement qu'on essaye de regarder un peu, qu'on aimerait mettre en valeur, parce que t'es un défenseur très défensif. Une partie du public, finalement, regarde les points, les buts, les assists. Ce qui est une frustration de ce côté-là, à se dire, ben voilà, le travail défensif, il est peut-être pas assez valorisé au travers des statistiques aujourd'hui.
Bah, le travail défensif, hein, c'est un travail de l'ombre, hein, parce que voilà, le hockey sur glace, c'est quand même c'est du spectacle. Donc bien sûr, les gens viennent pour voir les buts, pour voir les sacrés les sacrés mouvements des attaquants lors des dribbles. Donc forcément, moi qui suis défenseur défensif, des fois voilà, je suis très heureux aussi de dire que voilà, je suis un joueur de l'ombre, un joueur de plus de service de l'équipe. Et donc, après, voilà, les bloquer un shoot, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, on a des sacrés bobos après. Mais donc, oui, si ça peut être valorisé un peu parmi les statistiques, écoutez, on va pas dire non plus. Mais bloquer un shoot, on le fait pas pour soi-même. On le fait pas pour nos statistiques. On le fait avant tout pour le gardien, pour l'équipe. Donc, qu'il y ait les statistiques ou pas... Sans problème, les joueurs qui le souhaitent vont mettre le genou à terre pour se faire le plus gros possible et bloquer le shoot.
Encore une question de supporter, peut-être la question de Jérôme Devy qui pose comme question.
Après, il a posé plusieurs, Jérôme Devy.
Ah, il a posé plusieurs questions, on va choisir la meilleure.
Il était inspiré avec un ancien joueur de Berne parmi nous.
Voilà, justement.
On sent qu'il doit y avoir un attrait.
Après avoir joué à Berne, il demande quelles sont les différences de fonctionnement entre Berne et Ajoie qui te surprennent le plus ?
Oula, différence de fonctionnement. Bah alors quand je suis passé à Berne, c'était pas non plus tout feu tout flamme quoi. Donc différence de fonctionnement, bah déjà les infrastructures, bien sûr. Berne, c'est quand même une légende dans le hockey européen et puis dans l'histoire du hockey européen. Donc ça, il faut voilà leur laisser. Ils ont un budget énorme. Ils ont bien sûr de ce côté attractif pour certaines stars internationales. Donc ça, il faut leur donner. Il y a bien sûr cette différence-là. Après, ouais, les différences... ouais, c'est surtout ça, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'on est un plus grand chouchouté à Berne
Ah, mais ça, après, ce sont des questions que tout le monde se pose, mais c'est des problèmes de coulisses, quoi. Bien sûr, même moi, quand j'étais à Genève en junior, on parlait déjà de ça, que justement, Berne était favorisé.
Ah non, c'était pas dans ce sens-là. C'était pas dans ce sens-là. Dans le sens chouchouté, où on était plus pris par la main, plus dans un rôle confortable, voilà.
Pris par la main. Vous savez, dans les grands clubs, quand ils ont des grands budgets, que les joueurs touchent beaucoup d'argent, bien sûr, ils sont chouchoutés. Bien sûr, il y a plus de moyens mis en œuvre à côté pour que les joueurs soient bien confortablement assis dans le vestiaire et dans le bus. Mais il y a aussi cette pression qu'en retour, voilà, il faut des résultats. Et puis Marc Louti aimait bien descendre dans les vestiaires, nous le rappeler.
Il a sa réputation.
Quelques gueulantes.
Voilà.
Le face-à-face.
Thomas, tu vas revêtir désormais un nouveau maillot dans cette rubrique. C'est toi qui seras l'arbitre de notre face-à-face. Tu vas trancher entre Julien et Rafi. Un thème donné, ils ont 40 secondes pour défendre le oui ou le non. C'est une position qui est imposée. Aujourd'hui, on s'arrête sur une décision qui a surpris passablement de monde. Hein, le choix de l'entraîneur du HCA, Christian Wolvend, d'aligner 6 attaquants étrangers samedi face à Ambry. Il n'y a pas eu la réussite à la clé. Vendredi, c'était 2 défenseurs et 4 attaquants au niveau de la Légion étrangère. D'où cette question, messieurs. Faut-il continuer avec ce tournus des mercenaires ? Rafi, tu défends l'affirmative avec 40 secondes de crédit.
Bon, il y a d'abord un fait qui nous mettra tous d'accord. Samedi, Christian Wolvend a joué et il a perdu. D'un côté, ne pas aligner Eric Gélinas dans une rencontre comme celle-là face à Ambry peut relever d'une faute grave. De l'autre, ne pas faire confiance à des joueurs comme De Vos et Asselin au moment où il faut chercher une relance, ben, ça le serait presque autant. Alors, je ne cautionne pas ce all-in de Wolvend, mais il a au moins eu le mérite de tenter un électrochoc après un match où le HCA a encaissé quand même, il faut le rappeler, 8 buts. Et on l'a déjà rappelé. Donc un tournus, c'est plutôt un turnover avec cette idée d'aligner toujours les joueurs en adéquation avec l'adversaire et le contexte. Aligner les 6 mêmes joueurs importés samedi contre Zoug et dimanche à Lausanne, c'est certainement non. Mais aligner 6 attaquants étrangers, alors là, plus jamais.
On est au bout, il reste 3 secondes, j'ai démarré le chrono après, Julien me regarde par-dessus l'épaule, je te l'accorde.
Supervise.
Tu supervises. Et Julien, tu as aussi désormais 40 secondes pour nous dire pourquoi il ne faut pas continuer avec ce tournus.
Alors je poserai la question différemment, est-ce qu'Ajoie doit produire des résultats ou maintenir tous ses joueurs étrangers dans le rythme ? Si on était en janvier, que le HCA, si tant est qu'il soit largué au classement, se doit déjà de préparer les play-outs, j'opterai pour la seconde option. Mais ce n'est pas le cas. Ajoie s'est relancé avant la pause internationale. Il a toujours la 13e, 12e, voire même 11e place en ligne de mire. Certains importés ont la confiance avec eux. Ils ont permis à l'équipe de sortir du marasme dans lequel elle végétait il y a peu encore. Ils doivent par conséquent jouer. Et tant pis si certains en font les frais, ça fait partie du business. On a dit que le mois de novembre pourrait être un tournant dans la saison du HCA Ajoie. Christian Wolvend doit donc lancer ses meilleures cartouches du moment.
40 secondes pile poil. Merci messieurs. Verdict, Thomas, question pas évidente pour toi qui est dans le vestiaire.
Non, pas du tout.
On va peut-être la poser un peu différemment. Qui a sorti les meilleurs arguments entre Rafi et Julien ? Comme ça, on te demande pas de trancher sur le fond.
Non, mais comme à ma droite et gauche et droite, pardon, il y a eu de très bons arguments.
C'est gentil.
Après, voilà, j'espère tout simplement que le coach va pas écouter la radio. Bon, après. Voilà, non, j'ai beaucoup aimé l'argument ici, disant que voilà, il a pris des risques et puis il a tenté quelque chose. Voilà, ça n'a pas payé, mais bien sûr, comme on sait, dans le hockey ou dans la vie, si on veut gagner et vivre, il faut prendre des risques.
Donc finalement, le coach peut écouter la radio.
M'écoutez-moi, après, soutien. Voilà, les auditeurs, je ne sais pas. Mais voilà,
comment c'est... les joueurs, vous avez accueilli cette nouvelle au moment où vous comprenez qu'il y aura 6 attaquants étrangers? C'était un petit peu une surprise. Il y a eu un bouleversement dans l'alignement, notamment pour les défenseurs. Vous avez eu plus de responsabilités sur ce genre de match. Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
Eh ben, comme tu l'as dit, surpris. Dans un premier temps, mais après le coaching staff a rassemblé donc les différentes lignes et puis bien sûr nous défensivement la D-Squad comme on dit pour nous expliquer leur choix et qui voilà ils nous faisaient confiance pour partir sur un alignement comme ça. Après voilà comme j'ai dit, on a été surpris, mais d'un autre côté, on n'a pas le temps après de se poser non plus trop de questions et de penser. Voilà, notre boulot, c'est le coach nous donne des directives, nous donne des cartes, des clés. Et puis voilà, nous après, c'est d'aller sur la glace et de faire notre mieux pour remporter la victoire.
Les ailes de la Vouivre.
La suite du programme, elle est encore un tout petit peu indécise. Le HC Ajoie qui pourrait affronter Genève le 6 décembre en cas d'élimination des Aigles en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est un petit peu compliqué tout cela, et surtout au moment d'écouter ce podcast, vous êtes fixé, mais au moment de l'enregistrer, eh bien on ne l'est pas encore. Raison pour laquelle on vous donne rendez-vous le 7 ou le 14 décembre pour le prochain épisode. D'ici là, Ajoie jouera 4 ou 7 matchs. Il y aura de toute manière la réception de Zoug ce samedi avant d'aller à Lausanne dimanche, de recevoir le même LHC vendredi prochain, puis d'aller à Kloten le lendemain. On va déjà prendre ces 4 matchs-là, Rafi, histoire de définir qui peut être le maillon fort du HCA sur ces rencontres, et puis de rappeler aussi que t'as pas trop de pression parce qu'on reste sur 2 plantages, Julien et moi, avec Thibaut Frossard et Reto Schmutz.
Ouais, c'est un petit peu la rubrique de la Skoumoun, là. Hein, ouais. Ce qu'on vit en fait podcast. Mais là, on va vers un week-end d'attente, tu l'as dit. Zouk samedi, Lausanne dimanche. Et surtout, il n'y a plus de partie le mardi, ces temps, ce qui fait que le rythme est un petit peu différent pour les joueurs aussi. Puis on revient à cette problématique de l'alignement des mercenaires. Il y a moins de matchs, donc il y a moins de possibilités de contenter tout le monde durant la semaine. Alors, qui pour nos ailes? Alors, franchement, j'ai beaucoup réfléchi et c'est pas évident de cerner la personne qui va pouvoir permettre au HC Ajoie de faire un step. Et puis, on en revient toujours à la même chose. Dans ce genre de situation, qui peut pousser le HCA en avant? Ben, j'en vois qu'un. C'est encore une fois Jonathan Hazen. Et je mets encore une pièce sur Jonathan Hazen. Parce que, voilà, il est toujours là avec son coup de patin et sa vista. Et puis, il va peut-être encore nous réserver de belles choses ce week-end. C'est ce qu'on espère pour qu'il puisse donner ce souffle dont a besoin le HC Ajoie. Voilà, c'est pas une solution de facilité, mais pour moi, c'est une évidence.
Oui, t'as tout à fait raison, effectivement. C'est vrai, quand on voit la montagne qui arrive samedi avec Zoug, qui est quand même... presque repris la première place à Fribourg, qui va jouer d'ailleurs vendredi Zoug, qui est en feu malgré les absences de Kovar et d'Hoffmann. On peut se dire qu'il y aura peut-être des espaces en rupture et qu'il faudra profiter de la vitesse d'un Eisen ou d'un Timashov, pourquoi pas, effectivement. Julien, oui, choix beaucoup. Judicieux.
Oui, bien sûr, on prend moins de risques maintenant, je crois qu'on
assure.
À force de se planter, on va quand même assurer nos arrières de temps en temps.
On apprend.
Non, mais il a raison, je pense que j'aurais fait pareil. Et puis là, j'espère que Jonathan, comme je l'ai dit précédemment dans mes étoiles, avec sa régularité, il puisse être toujours cette locomotive pour le HC Ajoie.
On ose un petit tour de table. Vous mettez qui sur numéraire comme étranger samedi avant le match face à Zoug? Vous verriez qui?
Moi, je mets Brennan et... Ah, bonne question. Devant, c'est compliqué.
Mais voilà.
Ouais. D'habitude, c'est l'invité qui a la question compliquée. Hein, c'est pas
mais
nous,
on va pas lui poser la question, là. Hein.
Joker.
Ouais, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais bien que... Moi, je mets Brennan et Devos. J'aimerais bien qu'on donne une fois aussi la chance à Asselin d'avoir... Voilà, 2 matchs de suite qui puissent aussi montrer quelque chose. Puis qu'il y ait un peu de la profondeur sur les ailes aussi. On a vu qu'il y a des choix assez forts de Volvent qui ont été faits à Fribourg où Gillian Colère disparaît après le premier tiers. Ça a été quasi tout le match samedi. Donc pourquoi pas aussi donner de la profondeur avec ça. Roman Hingy, il a montré qu'il peut assumer le rôle de premier centre. Thibaut, il marque, ça peut lui redonner de la confiance aussi sur le troisième. Donc pourquoi pas tenter ça.
Je me cache pas derrière toi, Mathieu, mais je crois que j'aurais mis les deux mêmes joueurs sur numéraire, quoi.
On a décidé de se copier aujourd'hui.
Ouais, ouais, effectivement, je te rends l'appareil, mais Brennan de Vos pour moi aussi, ouais.
Et toi, Rafi, tu vas pas y échapper, tu vas te poser une sale question.
Alors moi, je relancerai encore une fois Philippe Michael de Vos en laissant Guillaume Asselin sur la touche une nouvelle fois. Voilà, quoi. Phil a besoin aussi de temps de jeu. Il doit aussi rattraper un petit peu le temps perdu. Et puis on espère qu'un jour, ça va se décoincer. Là, on aurait tellement voulu qu'il marque ce 3-3 samedi soir face à Ambry à la 55e. Voilà.
Puis peut-être une question rapide avant de se quitter, Thomas. Rafi l'a dit, c'est de nouveau un calendrier très particulier. Vous jouez le week-end, vous ne jouez pas en semaine. Comment vous le vivez, ça? Parce qu'on le voit, toutes les autres équipes, elles jouent mardi prochain. Il y a quasiment une journée complète, il n'y a que vous qui ne jouez pas, alors que vous avez déjà le plus petit total de matchs dans ce championnat de National League.
Eh ben, ouais. Donc, comme on avait discuté au début, donc là, c'est plus ou moins calme. Donc, on sait que peut-être mois de janvier, février, on va avoir un calendrier très très serré, puis on va ramasser. Donc
il y a de la frustration là, un petit sentiment d'injustice de se dire les autres ils jouent, nous on a joué très peu de matchs puis on joue pas.
Non, pas d'injustice, parce que on ne joue pas, mais d'un autre côté, ça permet de régler deux trois choses sur le côté. Donc bien sûr, penser à certaines blessures. Travailler à la salle de musculation certains mouvements et certains muscles spécifiques, et puis aussi on a plus de temps pour préparer justement ce match de samedi contre Zug. Donc les coachs bien sûr étudient notre adversaire, et puis on va pratiquer donc les deux prochains jours, et puis même dans ce début de semaine, cette longue semaine, les points clés pour battre nos adversaires du week-end.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Zouk joue vendredi, hein, si je ne me trompe pas.
Oui.
Ça, c'est un avantage pour vous. Là, vous êtes avantagé, le fait que ça sera votre premier match du week-end, finalement, pour vous.
Oui, parce qu'ils auront un match dans les pattes. Hein. Ils jouent à Fribourg ou à
domicile? Je sais plus de tes.
Bon, peu importe. Ils ont un match dans les pattes, et puis après, ils viennent chez nous, donc ils auront le transport. Donc voilà, c'est à nous de profiter, on va dire, ce léger avantage. Mais voilà, comme vous avez dit, Zug...
Fribourg a joué avant vous, après la pause internationale. Elle avait déjà un match dans les jambes.
Voilà, donc c'est un avantage qu'on se dit pour se rassurer, mais voilà, il faut,
on en reparlera,
faut jamais énerver la bête, quoi.
C'est ainsi qu'on arrive déjà au terme de ce 6e épisode. C'est toujours un grand plaisir de le partager avec vous, Rafi, Julien. Merci, messieurs, d'être à mes côtés pour ce podcast.
Merci à vous, c'était sympa.
C'est bon, tiens, merci.
Et puis la suite, on vous tiendra au courant. Retour de la bande du jeudi, le 7 ou le 14 décembre, en fonction du calendrier du HC Ajoie. Thomas Thierry, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Plein succès pour la suite.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir le nom de notre prochain invité. Vous pourrez à nouveau lui poser vos questions. Rendez-vous également sur rfj.ch, lqj.ch et les différentes plateformes de podcast pour réécouter cet épisode et découvrir les précédents. À très vite, bon match à toutes et à tous.
La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.